Merci Xavier de m'accueillir. C'est un plaisir parce que j'ai participé à une époque à l'IFM, devenu l'Institut du commerce. À l'époque, et je pense que ça n'a pas changé, Xavier, c'était d'inventer le commerce de demain. Donc pour inventer le commerce de demain, bien évidemment, il faut comprendre les attentes de nos consommateurs, leurs évolutions, et en ce moment, elles sont quand même nombreuses. Donc, effectivement, ça va être l'angle de cette journée. Et puis, je vais vous apporter donc mon témoignage, ma lecture, mais qui n'est pas que la mienne, c'est bien sûr celle des équipes d'Intermarché. Et donc, si on a le même partage de lecture, on a peut-être une chance de pouvoir mieux y répondre encore demain. Avant de vous parler du conso, je vais profiter quand même de la tribune pour vous donner quelques nouvelles de l'enseigne. Ça va plutôt bien, la croissance continue, donc ça prouve que le modèle il est solide, durable, robuste. Je l'attribue évidemment à un modèle d'indépendant, hein, où évidemment avec des chefs d'entreprise à la tête, ça permet d'être performant. Et puis on a deux facteurs, on a inévitablement le facteur supermarché, un format de proximité qui évidemment plaît aux consommateurs. On n'a pas ce poids, ce boulet des hyper qui donne ce que vous savez pour certains groupes. Donc ça, c'est quand même un avantage. Et puis, on bénéficie d'une dynamique qu'on a insufflée il y a 3 à 4 ans, même un peu avant, avec Philippe Manzoni sur le sujet producteur-commerçant, qui est une vraie différence et qui a trouvé son public. Alors, la croissance à fin avril, elle est à 2,50. Donc à 2,50 sur le 3,40 de l'année dernière, ça fait que c'est pas mal. En tout cas, l'objectif que j'ai fixé aux équipes reste d'actualité, c'est-à-dire prendre 0,2 cette année. Et je pense qu'on va vraiment les faire. Donc ça nous placera à 15 points. 15 points de part de marché, c'est l'objectif qu'on avait fixé pour ce petit cadeau d'anniversaire pour nos 50 ans. Alors, on va parler de la consommation, si vous voulez. Moi, ce que j'ai envie de vous dire et ce que j'observe, mais je pense que ce sera confirmé par nos experts IRI et Nielsen dans la journée, c'est qu'évidemment, on observe une baisse de la consommation qui est durable en volume. Moi, je vois pas d'amélioration à court terme parce qu'il y a des facteurs explicatifs pour que ça change pas. Il y a un facteur démographique, il y a un facteur de nouveaux entrants sous toute forme que ce soit pour venir nous concurrencer, nous les retailers traditionnels. Vous avez une RHF aussi qui capte bien évidemment des volumes de consommation alimentaire. Et puis, c'est surtout ça qui fait qu'il n'y a pas trop de changements à attendre. Mais il y a du boulot, on va en parler. C'est que le consommateur, il a changé. Il a changé, ce n'est pas un scoop, mais je crois qu'il y a deux choses qui sont quand même hyper importantes à capter et à comprendre. C'est qu'il a changé sur deux items. C'est que ses attentes aujourd'hui sont extrêmement claires. On a des études pour ça, mais quand on a des points de vente, on voit exactement ce qu'il attend, ce qu'il recherche. On va en parler. Et puis, la chose qui a changé, c'est qu'il est extrêmement déterminé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'il est vraiment déterminé à mesurer l'impact, évidemment, de sa consommation sur des attentes qui sont fortes. Et je les ai listées, moi j'en ai trouvé 5. Alors j'ai vu, ça tombe bien, j'ai vu qu'il y avait des thèmes qui étaient repris dans la journée. La première, je ne vais pas m'étendre parce que vous avez qu'à vous brancher sur BFM et puis vous en ferez des tonnes, c'est bien évidemment le pouvoir d'achat, les gilets jaunes et tout ça. Mais ce n'est pas anecdotique, c'est quand même, c'était ça il y a 20 ans, c'est ça aujourd'hui et ce sera encore ça demain. Vous avez quand même 20% des Français qui ont du mal à boucler leur budget en fin de mois. C'est des gens qui on leur dit manger des fruits et légumes, de la protéine animale, etc. et qui n'ont pas les moyens de le faire. Donc nous, retailers, bien évidemment, notre métier, c'est de rendre accessible tout ça. Mais vous, côté industriel, puisque le parterre est plutôt composé d'industriels, vous devez évidemment avoir ça en tête. Et quand nos équipes sont insistantes, malgré la nouvelle loi, pour avoir le bon taux promo, c'est pas pour être lourd ou péter nos business plans, c'est que bien évidemment, ça reste l'appétence encore aujourd'hui et demain des consommateurs pour venir dans nos surfaces de vente. Donc je vais plutôt développer le thème suivant qui me semble être peut-être la tendance la plus lourde, c'est qu'aujourd'hui, bien évidemment, le consommateur, il veut maîtriser l'impact de sa consommation sur le sujet santé. J'en veux pour exemple deux choses. Vous êtes acteur dans certaines catégories et il y a des catégories qui prennent très cher, qui sont en déconsommation et c'est clairement parce que le consommateur juge cette catégorie nuisible pour sa santé. Donc c'est pas rien, c'est quand même, ça n'existait pas il y a 10 ans, aujourd'hui c'est une réalité. Et puis évidemment la frénésie des applis qu'on peut avoir pour regarder justement l'impact nutritionnel du produit sur sa santé, c'est plus qu'une tendance lourde, c'est devenu un fait réel. Donc cette tendance, à mon avis, elle fait que commencer. Et l'impact de ça en termes de consommation, c'est très simple, c'est que Dans le meilleur des cas, ils changent de marque et dans le pire des cas, ils déconsomment. On en est là puisque vous avez 2 Français sur 3 cette année qui ont abandonné certaines de vos marques, considérant que ça pouvait être dangereux sur sa santé, sur leur santé. Donc c'est quand même pas rien. Et puis la stat, c'est 29% des consommateurs qui viennent dans nos intermarchés, mais pareil chez Carrefour, chez U, chez Leclerc, qui lisent vraiment attentivement la liste des ingrédients sur le packaging. Et c'est vrai, c'est-à-dire que vous allez, j'espère, en point de vente. À une époque, on regardait le prix. Maintenant, ils prennent le produit, ils passent l'appli et ils vont passer 40 secondes s'il faut pour s'assurer que pour leur enfant ou pour eux, la composition soit saine. Donc, c'est quand même pas rien et c'est un vrai phénomène. Donc, une fois qu'on a fait le constat, je crois qu'il faut surtout se dire il faut qu'on bouge vite, parce qu'on aime ou on n'aime pas Yuka, on peut la critiquer. En tout cas, si c'est pas Yuka aujourd'hui, ce sera une autre appli demain, et c'est écrit. Donc, côté inter, moi j'ai demandé à tout scanner, on a passé tous les produits à nos marques à Yuka, et on en a mis 850 à reformuler d'ici la fin 2020. Donc bien sûr c'est du boulot. Alors nous c'est plus simple, on a nos usines, donc on fait un comité scientifique avec le patron de l'usine et en théorie ça va assez vite. Mais je pense que c'est le sort décerné à tous les fabricants de marques propres. Et vous aussi, vous devez absolument le faire, les industriels, parce que vous imaginez bien que quand on va scanner un produit et que le consommateur va voir que c'est rouge pour sa santé, ça va pas durer longtemps, l'histoire. Mais vraiment. Et on va... faut mesurer que dans les 18 mois, 2 ans, on pourrait, nous, distributeurs, prendre des positions drastiques sur le choix de nos assortiments. On pourrait très bien, une enseigne comme Intermarché qui a été la première, même si d'autres ont copié derrière, on a porté le combat du mieux manger, on pourrait très bien dire une position d'enseigne forte, c'est sortir les produits qui sont nocifs et qui sont blacklistés par ces applis. Donc il faut le savoir, en tout cas moi j'ai pas encore appuyé sur le bouton, mais je me pose la question à un moment de le faire. Donc anticiper évidemment ces mouvements-là, et quand je vous dis anticiper, c'est pas de me doublonner la gamme en bio, c'est-à-dire c'est pas de faire le MeToo version bio, parce que c'est un travail qui est beaucoup plus important que ça à faire. Il faut repartir de vos gammes actuelles, les reformuler, parce que nous, le sortir en bio, on aura évidemment un problème d'espace, de contraintes, et que nos linéaires sont pas extensibles. Donc si c'est ça, on fera le choix à ce moment-là de votre produit bio ou évidemment de votre produit conventionnel. Donc ça, c'est quand même un élément important. À date, évidemment, ça tourne autour des nutriments, des additifs alimentaires, mais ça va aller plus loin, ça ira plus loin, parce que quand on fait l'enquête et on dit finalement qu'est-ce qui inquiète le consommateur, c'est le seul sujet maintenant qui va arriver fort, c'est évidemment les résidus pesticides. Donc nous, on a des produits bruts, hein, comme les fruits et légumes, où il y a des actions immédiates. Donc on a des programmes avec certains producteurs sur ZRP, zéro résidu pesticide. Alors à Paris, on a une appétence peut-être plus forte qu'en province. Moi, je sais que dans mes points de vente, j'ai testé depuis 6 mois, c'est un énorme carton. Alors on les met ensemble, hein, c'est comme le bio. Au départ, quand tu l'implantes, tu le mets pas dans les rayons par clairsemé. C'est tu rassembles toute cette offre-là et ça cartonne. Et puis dans la même logique, on voit un label comme HVE qui va monter en puissance. Nous, on l'a fait sur notre pain, c'est-à-dire que il faut aller à la source. La céréale qu'on met dans le pain, si elle est pleine de pesticides, ça posera peut-être un problème. Donc on est en train de labelliser tout ça et puis d'être en amont sur les intrants au niveau des matières premières. Donc une fois que je vous ai dit ça, vous avez compris que l'enjeu sur cet item, c'est que ensemble on améliore les recettes et les modes de production, et que bien évidemment le deuxième enjeu commun, c'est d'informer avec la plus grande clarté possible nos consommateurs. Il exige, je crois avec raison, de savoir ce qu'ils mangent, et derrière ça va nous amener à un chantier énorme qui sera la data, la traçabilité, la blockchain. Nous, on est à quelques jours d'annoncer un gros partenariat avec un faiseur d'informatique. C'est dans cette logique-là. On le fait pour justement pouvoir être en capacité à rassurer nos consommateurs et puis à travailler la composition précise des produits. Ça, c'est la deuxième attente. Il y en a une troisième qui est tout aussi importante. Alors, vous allez comprendre, la difficulté, c'est après de faire des choix dans tout ça. Mais la troisième attente, elle est liée évidemment à la conscience environnementale qu'ont nos consommateurs. Et en fait, on s'aperçoit que cette conscience, elle drive de plus en plus leur comportement d'achat. Et le vrai sujet, c'est un sujet où je pense qu'on n'est pas tous très clairs, à commencer par nous, mais certains, tous les industriels aussi, c'est le sujet des emballages. Les consos, ils ont bien compris, et vous le savez aussi, je pense qu'on a été trop loin et que ça peut plus continuer. Donc il y a une vraie révolution probablement à apporter sur le sujet des emballages. Nous, on a appelé ça défi emballage avec deux items à travailler chez Intermarché. C'est bien évidemment le packaging de nos MDD et puis tout le sujet du recyclage de toute la chaîne. Et je pense que les industriels que vous êtes, vous avez un boulot à faire là-dessus. En tout cas, on a, nous, distributeurs, des vraies attentes parce que aujourd'hui, l'heure est à faire le choix entre finalement l'idéal marketing de l'idéal environnemental. En tout cas, si vous n'accélérez pas sur le sujet, vous avez un vrai risque que très rapidement, un huitième, un quart et un demi de nos points de vente soient du vrac, ce qui serait catastrophique quand même pour vos catégories. Parce qu'on voit l'appétence, n'est-ce pas, mon cher Stéphane? Je vois Stéphane Sinopoli au premier rang, donc tu l'as fait à Clichy dans les premiers. Et c'est vrai que plus on en met et plus ça fait chiffre. Et on voit bien que ça n'est pas que sur l'alimentaire. On est en train de le tester sur du DPH sur des lessives et on voit évidemment qu'il y a une réelle appétence. Donc ce sujet-là aussi doit être vraiment travaillé de la part des industriels et des distributeurs. Alors quatrième attente, j'ai appelé ça l'attente sociétale sous toutes ses formes. C'est un peu le bordel parce qu'en fait le pupitre est de travers. L'attente sociétale sous toutes ses formes, alors j'y mets plusieurs choses, j'y mets évidemment le local, mais pas que. J'ai envie d'y mettre aussi la rémunération du monde agricole, c'est un vrai sujet. Et puis le thème qui est derrière, c'est aussi le thème du bien-être animal, qui est un sujet évidemment pour nos consommateurs. Sur la rémunération du monde agricole, je vais faire une petite parenthèse sur deux exemples qu'on a. On a sorti la gamme Merci. La gamme Merci, c'est une gamme sur laquelle on s'est engagé à payer 44 centimes aux producteurs de lait qui travaillent avec notre laiterie. On avait prévu l'année dernière 5 millions de litres, on en a fait 20 millions. Donc c'est juste la preuve que ça trouve son public. Et moi j'ai envie de dire, si ça peut faire 100 millions, on sera sûr que les agriculteurs français pourront en vivre. Et là, moi j'ai un peu rogné sur ma marge, mais j'ai totalement assumé qu'à un moment, les choses avaient un juste prix et qu'il fallait assumer de mettre 11 centimes de plus que notre MDD. Et le consommateur aurait fait le choix. Et à 11 centimes, ça passe, puisqu'il y a des gens qui sont prêts à le faire, à le payer pour que ça aille dans la rémunération des agriculteurs. Donc c'est quand même extrêmement encourageant. On l'a fait sur le lait, on l'a fait récemment sur le lait, le beurre, la crème fraîche. Là, on vient de le faire sur les œufs et ça trouve un public. C'est-à-dire que ça cartonne. Donc bien évidemment, il y a déjà quelques industriels, je pense à Candia, hein, puisqu'on avait signé des accords avec eux qui rémunèrent bien aussi les agriculteurs, ils le mettent en avant. Mais c'est une notion qu'il faut que vous ayez en tête et je pense que c'est quand même extrêmement important. Et puis l'actualité, on va en parler, c'est le sujet, alors on parle de l'agriculteur parce qu'évidemment c'est une préoccupation, mais il y a aussi, ça peut arriver, le sujet de l'industriel qui est entre nous et l'agriculteur. Donc nous on a pris une position cette semaine, c'est un peu notre actu, c'est que avec la flambée du prix du porc, on a signé des accords avec les charcutiers il y a 2 mois sur une base de prix du porc qui évidemment n'est pas celle du moment et celle à venir. Donc quand on a signé il y a 2 mois, on était sur une tendance à une cotation à 1,17, on est déjà à 1,45 et tous les analystes prévoient 1,80. Donc quand on est très gros comme Fleury Michon, je pense que ça peut passer, et encore, parce que bien évidemment, là je vous dis pas la tête des marges des industriels, mais quand on est une petite PME, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup en charcuterie, c'est des morts annoncées. C'est évident que s'il n'y a pas une position responsable de la distribution, dans un an on se retrouve et nous on n'aura plus les petits producteurs locaux de charcuterie, de saucissons et tout ce que vous savez, parce que évidemment ils auront été à la faillite. Donc ce qu'on a fait, on s'est rapproché du syndicat, on a été contacté évidemment déjà par pas mal d'industriels et donc on a pris l'option. Et donc ça c'est pas un effet d'annonce, parce que ça commence à m'énerver à chaque fois qu'on fait une annonce, maintenant on dit que c'est un effet d'annonce, pas du tout. Donc je précise la position d'Intermarché, ça n'est pas, on s'est pas amusé à prendre encore 3 industriels pour dire c'est l'arbre qui cache la forêt, on a fait le taf, c'est pas ça du tout. La consigne a été passée auprès des 8 acheteurs régionaux, parce que c'est là que sont les PME, les 8 acheteurs régionaux doivent en 1-2 rendez-vous se mettre d'accord très rapidement sur la date d'application d'un nouveau tarif et reprendre les conditions qui avaient été négociées il y a 2 mois. Donc ça concerne plus d'une centaine d'entreprises. Ils vont y avoir le droit. Donc oui, on cite ERTA parce que c'est multinational et on a aussi intérêt à ce que les multinationales aillent bien. On cite Loïc Hénaff, mais il y en aura des dizaines derrière et c'est une position qui est responsable. Et j'espère que bien évidemment, on ne sera pas les seuls parce qu'évidemment, s'il n'y a qu'Intermarché qui va le faire, ça pose un problème de compétition. Et j'espère qu'on va être responsable, c'est-à-dire que quand il y a une inflation comme ça de la matière première, il faut bien se dire que c'est aux consommateurs aussi de payer. Donc il ne faut pas y aller violemment. Mais évidemment, dans une telle situation, c'est pour ça que médiatiquement, il faut occuper l'espace, il faut l'expliquer aux consommateurs à la télé, que quand le porc est à 80, il faut qu'elle comprenne que sa tranche de jambon, elle ne va pas le payer 2 euros quand c'était le cas avant et que ce sera 2,10 euros demain. En tout cas, on sera les premiers à appuyer sur le bouton avec une légère inflation, mais je pense que c'est de notre responsabilité de le faire. Dernier thème, parce qu'on pourrait parler très longtemps de ces sujets-là, et on va respecter le timing. Le dernier thème, c'est ce que j'appelle la maîtrise du temps agréable. Et finalement, c'est le ratio qu'il faut qu'on trouve entre le temps agréable, du temps désagréable quand on fait ses courses. Bien évidemment, on a un intérêt, nous, distributeurs, et vous, patrons de catégorie, à ce que ils y passent le moins de temps possible et que ce soit le plus agréable possible. Et derrière tout ça, j'y mets l'expérience client du shopper et côté Intermarché, on a beaucoup de sujets. On a déjà des nouveaux concepts qu'on va sortir. Alors vous l'avez peut-être vu dans la presse, il y a Douvaine qui va être le nouveau prototype d'Intermarché qu'on a appelé Fab Mag parce qu'il y aura de la fabrication sur place. On voit bien que la consommatrice veut des solutions repas. Il faut qu'elle gagne du temps, elle cuisine moins. Donc on va faire de la production à l'intérieur de l'Intermarché qu'on vendra. Et puis, on va aussi transformer notre concept netto. On voit bien, qu'il y a une appétence au discount. Donc, on a quand même 300 points de vente qui sont sur ce format-là. Faut le faire intelligemment, mais il y a vraiment de la croissance à aller chercher aussi pour ce format-là. Côté digital, on vient de refaire notre site, on vient de refaire l'appli. C'est plus agréable, c'est plus rapide et donc ça fait partie justement de cette réponse qu'attend le consommateur. Par rapport à la montée du digital, puisque chez Intermarché, ça reste somme toute modeste, on est à 2,5 points de notre chiffre d'affaires, 2-3 points de chiffre d'affaires en drive. Ça a été très clairement au début une position assez défensive, puisque on n'avait pas envie de se prendre des capex pour ouvrir un entrepôt à côté de l'Inter. Maintenant, on a une vision très claire, ça va faire 10% dans les 5 ans ou les 10 ans, donc on accélère. C'est-à-dire que moi, j'ai demandé au patron de région, évidemment, d'automatiser le mode de préparation. On va arrêter à terme, pas tout de suite, mais à terme, on va arrêter de prendre dans les rayons et de piocher, et on va réfléchir à la mutualisation d'un outil en GUE entre les adhérents du coin, pour que, bien évidemment, on puisse préparer moins cher, mieux, et avec un taux de fiabilité qui soit plus important. On avait une marketplace en non alimentaire. Là, c'est pareil, c'est test and learn. Ça sert à rien d'insister. On est des nains par rapport à Amazon, donc on va la plier et on va en faire une marketplace alimentaire. Donc, c'est intéressant aussi pour vous parce que quand je vous disais qu'on n'avait pas de place trop dans les rayons avec toutes les inos que vous sortez, la marketplace aura l'intérêt en alimentaire d'être un complément de gamme intéressant avec la logistique qui va et on y croit beaucoup. Et puis, je profite que vous êtes beaucoup d'industriels dans la salle pour vous rappeler qu'on a tenté il y a 18 mois une aventure pour réinventer un peu la relation qui nous lie en se disant le digital arrive, il faut aussi pouvoir se dire que c'est un sujet commun, il n'y a pas d'opposition à travailler ensemble, des use cases qui nous aident à craquer des modèles, donc c'est l'abonnement, c'est plein de choses comme ça, et donc la bonne nouvelle c'est qu'il y avait donc 8 multinationales qui avaient été retenues dans le programme et on a 5 actions très concrètes qui vont sortir cette année et donc le travail de ces industriels avec nos équipes auront porté et c'est la première fois qu'on fait un programme d'innovation qu'on construit avec nos partenaires et je crois que l'avenir est aussi là au commerce de demain. Tous ces concepts, que ce soit le nouveau système de préparation drive, les nouveaux points de vente physiques, c'est pour 2019 en test et notre chronologie, c'est qu'en 2020, plutôt sur Q2, ce soit déployé dans l'ensemble de notre chaîne. En tout cas, j'aime à rappeler que la meilleure réponse aussi au digital, c'est qu'on soit bon sur le carrelage, parce qu'il y a quand même 90% du chiffre qui sera sur le carrelage. Et moi, j'ai la chance d'avoir des adhérents, normalement, qui s'emploient à être des commerçants. Donc, pour conclure, il y a 5 attentes, Xavier, tu l'as compris. Évidemment, le prix, la santé, l'environnement, la société Et le dernier sujet qu'on vient d'évoquer, je crois qu'il ne faut pas oublier non plus le goût, le plaisir, mais ça, vous le faites plutôt bien. Et je me dis qu'en fait, une fois qu'on aura fait tout ça, l'avenir nous appartient. Et je crois que l'avenir, parce qu'en fait, ce qui est assez effrayant mais excitant, même si je suis jeune, ça fait quand même 20 ans que je suis dans la distribution, je crois que là, quand même, ce qu'on est en train de vivre, c'est assez incroyable. C'est-à-dire que dans le monde qui nous entoure, entre l'évolution de ce conso, entre l'arrivée du digital, entre ce qui se passe chez les concurrents, voilà, ça bouge vraiment. Mais il faut le voir comme une opportunité extraordinaire pour se réinventer. Je crois que cette déconsommation qu'on a évoquée en volume, si on attaque ces cinq thèmes-là, si on les travaille intelligemment, si on les co-construit, il y a de la croissance. En tout cas, je suis persuadé que l'avenir appartient aux commerçants. Voilà, merci pour votre attention.
Merci Thierry.